Vous écoutez On lit pour vous.
Une expo en hommage aux créatrices et créateurs des zines LGBTQ+. Un texte d'André-Constantin Passiour paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Jusqu'au 31 mars 2025, les Archives gays du Québec, AGQ, accueillent l'exposition « Génération Xerox » lancée le 30 novembre dernier. Il s'agit d'une ode à l'auto-édition, à la culture des zines et aux documents éphémères queer facilement reproductibles. Cette culture underground des zines, présentée dans toute sa variété et ses caractéristiques, et pourrait-on même rajouter dans toute sa splendeur. On a puisé ici dans les vastes collections des AGQ pour préparer cette exposition « Génération Xerox », dont Simone Baudry-Pilote, Mark Andrew Hamilton et August Klinberg en sont les commissaires. Près d'une centaine d'items sont ainsi offerts aux yeux des visiteurs et visiteuses. Un zine, c'est généralement une œuvre publiée en petite série et de manière indépendante, dont le tirage est inférieur à 1000 exemplaires. N'importe qui peut devenir zinestère. Autrement dit, quelqu'un qui crée un zine, et la plupart des gens créent des zines par amour de la création plutôt que par recherche du profit, nous apprend le site web de la Purdue University de West Lafayette dans l'Indiana. On y retrouvera des affiches des manifestations contre les descentes policières au Bar Trucks, 21 octobre 1977, alors que 200 hommes gays sont arrêtés, et au Buds. Cela s'est produit dans la nuit du 1er au 2 juin 1984, alors que les policiers armés vont y faire 188 arrestations d'hommes gays. Des affiches contre la venue du pape Jean-Paul II, coalition contre le pape et sa visite en 1984, affiches aussi annonçant une célébration du Nouvel An gay 74 dans une salle de l'Université McGill sur la rue McTavish, qui deviendra le lieu de plusieurs parties et rassemblements gays d'ailleurs, entre autres. Côté zine, on verra le DPN, le IHSIMS du réalisateur Bruce LaBruce, Bundle of Sticks, Unmistakably Queer Bent, Sexual Explicit Sheer Anarchy, Punk and Chaos. Également des zines lesbiens engagées telles que Riot Girl, ou encore Clit International, des zines underground militants, ou encore Bad Fag, un autre petit zine engagé très gay cette fois-ci. Les fameux Homo Core, Demon Seed, Latoya Jackson et Fig, entre autres, sont compris dans cette exposition-ci. Mais pourquoi une telle expo à ce moment? C'est une sorte de commémoration de beaucoup de voix anonymes et de différents points de vue du mainstream gay. C'est très punk, très indépendant et très artistique à la fois, d'expliquer le commissaire Mark Andrew Hamilton. Ces zines constituent une collection de plus en plus en demande par les chercheurs désirant trouver de l'information sur l'histoire des trans, des bisexuels, etc., et que l'on ne retrouve pas ailleurs. C'est aussi pour le graphisme qui, encore là, ne se voit pas ailleurs. Les ouvrages vont du début des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, de commenter l'archiviste et commissaire Simone Baudry-Pilote. Beaucoup de gens viennent ici pour la recherche, oui, mais il y a aussi bien des artistes qui s'inspirent des très nombreux documents des collections des archives pour créer leurs œuvres, poursuit Simone Baudry-Pilote. Cette expo sert aussi à montrer les zines au public. Avec cette exposition, nous voulons donner l'occasion aux gens de toucher, avec des gants bien sûr, aux artefacts, poursuit Mark Andrew Hamilton. J'étais récemment à New York où il y avait également une belle exposition de zines, mais les pièces étaient sous verre alors qu'ici on peut les manipuler. C'était vraiment dommage. Ils sont faits pour être pris dans les mains et regardés. C'est une question de respect pour les artistes originaux qui les ont créés. Certaines œuvres sont plus réputées que d'autres, comme Homocore, par exemple. C'était une petite publication, mais avec beaucoup de fans qui la lisaient. C'était aussi parce que Homocore a créé un mouvement de jeunes gays punk underground, notamment avec G.B. Jones et Bruce Le Bruce dans les années 1980, indique Mark Andrew Hamilton. Pour info, Homocore a publié 7 numéros entre 1988 et 1991. On a fait l'effort, pour cette exposition en particulier, d'avoir des œuvres en français et en anglais, souligne pour sa part Simone Baudry-Pilote. En collaboration avec l'artiste et éducateur invité August Klinberg, dans l'espace de consultation arrière, celui-ci expose la série de gravures « Join or Die », en réponse au bulletin épiscopalien « The Integer ». Cette œuvre est exposée pour la première fois au public. Un petit zine commémoratif de l'exposition a aussi été concocté par l'artiste-designer Assad Pervaiz. Des événements spéciaux liés à l'exposition seront organisés au cours des prochaines semaines et les détails seront annoncés prochainement. Info, Archives gays du Québec, agq.qc.ca. C'était une expo en hommage aux créatrices et créateurs des zines LGBTQ+. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Denise Filiatreault quitte la direction. Un texte de Luc Boulanger et Étienne Paré, paru le 22 janvier 2025 dans la presse. Après 21 années passées comme directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatreault tirera sa révérence le 30 juin 2025. La directrice générale de l'institution, Céline Marcotte, cédera également sa place après 18 ans en poste. Denise Filiatreault, l'artiste qui a contribué à sortir le Rideau Vert du gouffre financier et à éviter sa fermeture en 2004, quittera la direction du théâtre à la fin de la saison. Par voie de communiqué, le Rideau Vert a indiqué que les deux femmes ont décidé de quitter leurs fonctions en même temps dans une volonté d'insuffler une énergie nouvelle tout en respectant l'héritage qui fait la renommée du théâtre. Même si l'annonce du départ de Mme Filiatreault n'est guère surprenante, elle a 93 ans. Cette nouvelle marque la fin d'une époque et elle complète le processus de renouvellement des théâtres au Québec après les départs de Lorraine Pintal au TNM, de Ginette Noiseux à l'Espace Go et les autres récents changements de garde chez Duceppe, au Catsou, au Trident, à Espace Libre. Denise Filiatreault deviendra aussi marraine du Rideau Vert, la plus vieille compagnie de théâtre au Québec et la plus ancienne au pays, avec le Théâtre du Cercle Molière à Winnipeg, qui célèbre son centenaire en 2025. Une icône de la culture au Québec. Au poste de directrice artistique, la légendaire metteuse en scène, qui fêtera ses 94 ans en mai 2025, aura contribué à renouveler la programmation du théâtre avec des choix éclectiques de pièces mêlant classiques du répertoire et comédies musicales à succès. C'est à Denise, comme elle veut se faire appeler, que l'on doit l'implantation en 2005 du spectacle Revu et corrigé, la revue de fin d'année du Rideau Vert qui connaît beaucoup de succès chaque année. Le Rideau Vert a salué une icône du théâtre québécois qui incarne à elle seule une partie de l'histoire de la culture et des arts au Québec. Son apport est immense. Ce fut un grand honneur de travailler à ses côtés, a confié Céline Marcotte à la presse. La directrice générale souligne aussi qu'elle laisse une maison en ordre pour la relève. « Mais je n'ai pas fait ça seule », précise-t-elle. Je l'ai fait avec Denise, le conseil d'administration, nos partenaires et nos donateurs. Tout le monde a contribué à solidifier la santé financière du théâtre depuis 20 ans. Place à la relève. Madame Marcotte ne craint pas pour la pérennité du Rideau Vert, fondé en 1948 par deux femmes exceptionnelles, Yvette Brindamour et Mercedes Palomino. Il y a une très belle relève d'artistes et de gestionnaires actuellement qui prennent les nouvelles directions des théâtres, dit-elle. Jointe par la presse, la présidente du conseil d'administration, aussi vice-présidente philanthropie et commandite chez Québécois, Sylvie Cordeau, a soutenu que l'entreprise va demeurer un partenaire majeur du Rideau Vert dans l'avenir. Québécois aide beaucoup les arts et les créateurs québécois. Le Rideau Vert a une place particulière dans la culture au Québec. On est très attaché à ce théâtre. Madame Cordeau souligne l'engagement et la détermination de Denise Filiatro. Elle a permis au Théâtre du Rideau Vert de demeurer une référence incontournable du théâtre québécois et de rayonner plus que jamais. En la nommant marraine, nous souhaitons non seulement reconnaître son immense contribution, mais aussi la garder près de nous, dans la famille du Rideau Vert. Le CA déclenche dès aujourd'hui son processus de sélection d'une nouvelle direction artistique et générale. La compagnie désire garder le modèle actuel d'une co-direction qui collabore étroitement. Un comité de sélection sera désigné pour recruter les deux personnes à la succession. Elles devraient entrer en poste d'ici l'été 2025. En vacances en Floride ces jours-ci, Denise Filiatro n'a pas souhaité parler à la presse. À la veille de ses 94 ans, Madame Filiatro annoncera en avril 2025 ses choix de pièces pour la saison 2025-2026 du Rideau Vert. Son ultime programmation. Denise Filiatro au Rideau Vert en 7 dates. 1957. Denise Filiatro fait ses débuts sur les planches au Rideau Vert. La comédienne joue une Russe dans Le complexe de Philémon, mise en scène par Jean Fauché. 1993. Denise Filiatro dirige avec brio le duo Sylvie Drapeau et Luc Picard dans Mademoiselle Julie de Strindberg. Un grand moment de théâtre. 2004. En juin, sur fond de crise financière, le conseil d'administration nomme Denise Filiatro comme nouvelle directrice artistique de la compagnie. À 73 ans, elle succède à Guillermo de Andrea, qui a démissionné en octobre 2003. Le théâtre fait relâche durant un an, mais programme la reprise de la comédie musicale Cabaret, une production dirigée par Denise Filiatro. 2005. Reprise des activités du Rideau Vert le 27 septembre, avec la pièce « La visite de la vieille dame » de Frédéric Durenmatt, avec entre autres André Lachapelle. Québécois devient le partenaire principal du théâtre et va contribuer à sortir le théâtre de son gouffre financier. 2005-2006. En décembre et janvier, le Rideau Vert présente la toute première édition du spectacle « Revue et corrigée ». La directrice artistique confie sa mise en scène à Joël Legendre. La production est un succès. Elle est depuis reprise toutes les fins d'année. 2009. En mai, pour clore sa saison, Denise signe la mise en scène de la comédie musicale « Un violon sur le toit », avec entre autres Linda Sorgini et Martin Larocque. 22 janvier 2025. Après respectivement 21 et 17 ans à la barre du Théâtre du Rideau Vert à titre de directrice artistique et de directrice générale, Denise Filiatro et Céline Marcotte annoncent leur départ de la plus vieille compagnie de théâtre au Québec. C'était « Denise Filiatro quitte la direction », un texte de Luc Boulanger et Étienne Paré, paru le 22 janvier 2025 dans La Presse.
Après 154 ans, l'épicerie J.A. Moisan met la clé sous la porte. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir. Un dernier tour de clé dans la porte du 685 de la rue Saint-Jean, à Québec, et le rideau tombe au soir du 24 janvier sur un univers cultivé un client à la fois depuis 1871. La vénérable épicerie J.A. Moisan tire aujourd'hui sa révérence après 154 ans d'existence, emportée par une économie en berne, certes, mais aussi par l'érosion du lien humain dans le commerce. C'est un monde fait de mille petits riens qui est sur le point de disparaître. Cette odeur des grains de café moulus mêlée au parfum des épices. Ces bonjours lancés depuis le comptoir aussitôt la porte franchie. Ces notes de jazz et ce plancher qui craque sous les pas. Ces étalages pleins d'emballages exotiques venus du vieux continent. Ces lumières feutrées à mille lieues des néons des supermarchés. Sous le portrait austère de son fondateur, l'épicerie J.A. Moisan était un petit cosmos à l'épreuve du temps où commercer se faisait encore avec l'âme de l'artisan. Ici, les commis connaissent les habitués par leur goût, par leur nom, parfois même par quelques branches de leur arbre généalogique. En 22 ans, j'en ai vu passer du monde, s'exclame Muriel Pourreau, tenancière du rayon des fromages et des charcuteries. Parfois, ce sont des gens que j'ai vus tout petits, dans la poussette, et que je vois encore aujourd'hui maintenant qu'ils sont devenus grands. Ça donne un coup de vieux, dit-elle en rigolant. Mais c'est aussi toute la beauté de notre métier. Faire en sorte, par tout plein de petites attentions quotidiennes, que le client se sente apprécié, se sente en famille. Une simple épicerie parmi d'autres. Ce n'est pas faute d'énergie ou d'argent que J.A. Moisan doit aujourd'hui faire ses adieux au Faubourg Saint-Jean. L'actuel propriétaire, Donna Willett, a acheté l'épicerie à la fin de 2019 pour s'apercevoir que le bâtiment nécessitait une importante cure de jouvence. Environ un an et 5 millions de dollars plus tard, l'épicerie rouvrait ses portes en janvier 2021 sans que le quartier, lui, retrouve l'habitude de les franchir. La communauté n'était pas du tout au rendez-vous, et je ne la blâme pas, dit Mme Willett, avec une résignation sans amertume. L'économie n'est pas bonne, l'épicerie est déjà chère et, ici, c'est un commerce de spécialité. Combien de fois quelqu'un va se permettre de se gâter avec un vinaigre balsamique à 65 $? Pour plusieurs, c'est le coût d'une épicerie pour la semaine. Mille et une autres raisons ont achevé l'épicerie de la rue Saint-Jean. Le manque de places de stationnement, la pandémie, la rareté du tourisme dans le faubourg, l'économie détraquée, la piétonnisation de l'artère pendant l'été, énumère la propriétaire, ont tous contribué à enfoncer le dernier clou dans le cercueil de J.A. Moisan. Sans compter les permis à obtenir, les taxes à acquitter, l'électricité à payer, autant de frais qui, cumulés, dépassaient 30 000 $ par mois. Il y a aussi la concurrence des grandes enseignes, ajoute Mme Willett. Les importations françaises de la maison Fayard, par exemple, se trouvèrent rarement dans le quartier auparavant, en tout cas jamais dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, elle se trouve chez IGA qui achète en palette quand moi j'achète en caisse de 12. C'est sûr qu'ils peuvent vendre beaucoup moins cher que moi. C'est peut-être aussi l'air du temps qui emporte tout simplement avec lui un vestige d'une autre époque. Les gens qui ont à cœur J.A. Moisan sont de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, constate Mme Willett. La nouvelle génération ne connaît pas l'épicerie et elle n'a pas le même attachement émotionnel. Les tendances changent et nous allons de plus en plus vers la robotisation et la technologie, de moins en moins vers le côté humain du commerce. Pour les jeunes, J.A. Moisan, ce n'est pas une institution qui fait partie du patrimoine de Québec, c'est tout simplement une autre petite épicerie qui ferme parmi d'autres petites épiceries. Misère et splendeur des petites épiceries. Ces disparitions laissent chaque fois leur communauté en deuil. Le Vieux-Québec ne compte plus aucun marché d'alimentation digne de ce nom. le quadrilatère Sacré-Cœur, dans le quartier Saint-Sauveur, s'ennuie encore du marché Saint-Saul, fermé en 2024. Et depuis des mois, sur l'avenue Cartier, au cœur du quartier Montcalm, la vitrine placardée de la défunte épicerie Provision rappelle chaque jour le vide laissé par l'évaporation soudaine de cette institution du quartier. Chaque fermeture éteint un carrefour de rencontres pour la collectivité. Nous faisons partie du paysage, explique Sarah-Julie Gilanglois, représentante de la troisième génération à la tête de l'épicerie familiale Roset sur la rue Maguire. J'ai des habitués que je vois chaque jour. J'ai des gens qui accompagnaient leur grand-mère dans le temps et qui fréquentent encore le commerce aujourd'hui avec leurs enfants. Ça crée une relation spéciale avec la clientèle, une sorte d'intimité aussi avec le quartier. Notre objectif, c'est que le monde reparte d'ici plus heureux qu'à son arrivée. Les affaires vont bien dans cette épicerie du quartier Sillery, fondée en 1947. Chez Roset, la sauce à spag et les croûtons faits maison, encore fabriqués selon les recettes familiales des années 1960, goûtent bon la tradition et les clients les plus réguliers peuvent encore inscrire leurs achats sur l'ardoise à l'ancienne. Nous les connaissons tellement bien que certains paient seulement à la fin du mois, explique Mme Langlois. Ce côté humain-là va se perdre. Cette sensibilité « douce France » paraît presque anachronique dans un paysage commercial de plus en plus américanisé, dominé par l'achat en ligne et les grandes enseignes impersonnelles. Québec reste une ville à échelle humaine, croit Muriel Pourreau de chez J.A. Moisan. Mais ce côté humain-là va se perdre au fur et à mesure parce que c'est vrai que nous n'avons pas le même pouvoir d'achat que les grandes chaînes. Les tendances changent aussi, analyse Donna Willett, et la vie sociale se déplace de l'espace public à la sphère numérique. Les gens communiquent de moins en moins ensemble. Tout se dit par téléphone et sur les médias sociaux. Ça fait mal de voir ça pour ma génération, mais chez les plus jeunes, c'est tout à fait normal. Ils viennent à l'épicerie pour faire leur check-out sans être dérangés. J.A. Moisan, c'est plutôt un endroit où nous prenions notre temps pour servir la clientèle. C'est une conception très différente pour moi, mais la société évolue. C'est devenu ça, la réalité du monde d'aujourd'hui. C'était, après 154 ans, l'épicerie J.A. Moisan met la clé sous la porte. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir.
Les risques de la crème solaire pour les coraux. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 juin 2024 dans la presse. De plus en plus d'études semblent démontrer que la crème solaire est néfaste pour les coraux. Quand quelqu'un m'a dit cela, il y a une demi-douzaine d'années, alors que j'étais en vacances à Hawaï, je me suis dit qu'il était fêlé. Explique William Mitch, ingénieur environnemental à l'Université Stanford, qui a publié en 2022 une étude sur le sujet dans la revue Science. Mais finalement, j'ai réalisé que certains composés actifs des crèmes solaires ressemblaient beaucoup à une molécule que j'étudie. Alors je me suis penché sur la question et j'ai réalisé que oui, il pourrait y avoir un effet sur les coraux. Quelques mois après l'étude de M. Mitch, les Académies nationales des sciences, NAS, des États-Unis, ont publié une vaste revue de littérature sur le sujet. La conclusion principale est qu'il manque de données probantes pour restreindre l'utilisation des crèmes solaires près des récifs de corail, étant donné leurs bénéfices pour la santé humaine en ce qui concerne la réduction du risque de cancer. L'un des éléments importants soulevé par les NAS, et l'incertitude concernant la dilution de la concentration de crème solaire dans l'eau de mer, dit M. Mitch. Les études sont faites avec des concentrations très élevées, ce qui est normal en toxicologie. Mais il est certain, selon lui, qu'avec les courants, le vent, les vagues, il est difficile de savoir quelle concentration des composés actifs des crèmes solaires subsiste près des coraux. Pour compliquer le tout, les crèmes solaires sont souvent hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau. Alors, il se peut qu'elles s'accrochent à des substrats comme les coraux. Oxybenzone. L'étude de M. Mitch portait sur l'oxybenzone, un composé soupçonné d'être nocif pour les coraux et qui est exclu de certaines crèmes solaires, dont un argument de vente est leur innocuité pour les coraux. Hawaï, notamment, interdit la vente de crèmes solaires contenant de l'oxybenzone. Nous avons réalisé que les anémones de mer, des organismes très proches des coraux, métabolisent l'oxybenzone et le transforment en produit qui attire la lumière du soleil au lieu de la repousser. Le métabolite, produit par l'anémone, produit des radicaux libres nocifs pour l'anémone de mer. Les coraux déjà fragilisés par la hausse de la température de la mer, notamment ceux qui ont blanchi en éjectant les algues qui leur donnent leur couleur, sont encore plus sensibles à ce métabolite producteur de radicaux libres. Les autres études sur l'impact des crèmes solaires sur les coraux se sont surtout penchées sur leur rôle en tant que perturbateurs endocriniens, selon M. Mitch. Il s'agit de perturbateurs des hormones. La prochaine étape pour M. Mitch est de se pencher sur d'autres composés des crèmes solaires. Le rapport des NAS en identifiait 17. On interdit l'oxybenzone. Mais on ne sait pas si les autres composés sont métabolisés de la même manière par les coraux. La reproduction de l'étude chez différents coraux est aussi au menu. En savoir plus, source, Journal of Cosmetic Dermatology, 1928, lancement de la première crème de protection solaire aux États-Unis. 1935, lancement de la première huile de protection solaire ayant connu du succès par L'Oréal. 11,6 milliards US. Vente mondiale de crème solaire en 2018. C'était « Les risques de la crème solaire pour les coraux », un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 juin 2024 dans La Presse.